Alors, regardez bien, pensez au pluvier doré, puisque c'est vraiment incroyable cette histoire. Hein? Ben, je vois quand les oies sauvages passent au-dessus de la maison, en journée, elles vont dans la direction. Hein? Parfois elles tournent, elles sont en train de crier. Pourquoi? Parce qu'il y a un bus, il y a quelque chose qui les a attaquées. Elles tournent en rond et, comme ça, il n'y en a jamais une derrière. Elles tournent en rond et la buse ou l'aigle ne s'est pas attaquée. Elles tournent en rond. Le temps que l'eau se décourage, elles resserrent le rond, elles finissent par le dégoûter et serrer, il s'en va. J'observe ça. Et donc, elles ont une méthode d'autoprotection contre l'ennemi. Une solidarité incroyable. Prenons-en de la graine pour nous. Parce que je me demande pourquoi on est plus belles qu'eux, quoi. Alors, spirituellement, on a perdu tous les moyens spirituels.
Il y a une différence entre les oies et les grues, je sais.
Oui, c'est très différent.
Mais des fois, c'est les grues qui font le même bruit que les oies, non?
Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est deux animaux différents, très différents. Vous avez déjà vu des oies.
Oui.
Imaginez qu'elles sont un peu plus grosses. C'est des oies sauvages. Les grues.
Les grues, c'est
quoi? Hein? Jamais vu?
Non. Ah oui, d'accord.
Une fois, ma femme était dans le champ, elle travaillait et tout ça, et moi j'étais un peu plus loin. Et attention, pas confondre avec les aigrettes et les hérons. Hein. Mais ce qu'il y a, il était un peu plus bas, en contrebas, et tout d'un coup, les grues redécollent. Elles étaient un peu dans le versant, à l'abri du vent, à l'abri des yeux aussi, dans le verger, elles mangeaient. Sans doute des fruits pourris, mais les fruits pourris sont pleins de vitamines. Hein. C'est pas pourri pour tout le monde. Et les pommes. Et elles ont démarré. Elles avaient encore les pattes comme ça, pendantes. Parce qu'il faut prendre la vitesse et alors les pattes se mettent, elles se rangent presque à l'horizontale, quoi. Pour ne pas freiner. Hein. Elles ne traînent pas les pattes comme ça pour se freiner. Et elles passent à 2 mètres au-dessus de Marie-Hélène. Hurrah ! C'est incroyable de voir ça. Et puis ça monte. Et puis les pattes se rangent. Et puis levez, je vais après. Alors là, elles ont la technique de vol. Alors, la technique de vol, nous la voyons dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le pluvier doré a une espérance, c'est trouver l'île d'Hawaï. Qu'on le veuille ou non, Dieu lui a mis l'espérance. La certitude, en grec, hein, la certitude, là-bas, pas autre part, ni à gauche ni à droite. Pour nous, retenons bien ça, hein, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand ils sont arrivés, c'était démontré que l'espérance était fondée. Et la technique de vol qu'il y a en eux, que Dieu leur a inscrite, ils y obéissent. Et en se mettant dans la formation qu'il faut, ils économisent l'énergie, ils arrivent. La même chose pour les oies sauvages, pour les grues, etc. Mais dites-vous bien, quand elles volent en journée, ça va les oies sauvages, les grues. Mais quand le ciel est vide, qu'il y a les étoiles, on dit... Ah, elles regardent l'étoile du nord, etc., elles suivent. Et quand il y a des nuages partout, il y a du brouillard, et qu'il y a des nuages sur des kilomètres, des fois, elles volent. On les entend passer, on ne voit rien. Elles ne voient rien non plus.
Pas de GPS,
pas de GPS, pas de radar. Il y a quelque chose en elles qui parle à leur être. À leur être. Il y a une voix. L'Éternel dirige les animaux. Et il nous donne une leçon. Depuis le péché, nous n'écoutons plus la voix de l'Éternel. Depuis le péché, nous avons rompu avec la communication avec Dieu. Normalement, un chrétien né de nouveau, la communication avec l'Éternel est rétablie. C'est à ça qu'on doit voir le vrai chrétien. Le chrétien sans communication avec l'Éternel, c'est quoi?
Il
a un problème. Il se dit chrétien, il a peut-être été baptisé. Est-ce qu'il est né de nouveau? Moi, je dis franchement que j'ai baptisé des gens. Je dis franchement, je me suis parfois trompé. Je vois même dans les actes des apôtres, il y en avait qui n'étaient pas nés de nouveau. Qu'est-ce qui peut certifier quelqu'un né de nouveau? S'il le prétend, s'il le confesse. J'ai visité des églises, j'ai des amis pasteurs plus anciens que moi qui sont morts, qui m'ont dit, j'ai baptisé 150 personnes, regarde, ils sont tous là. Et quand j'ai des épreuves terribles avec certains, et je dis, mais sont-ils vraiment chrétiens? Jean, je ne peux rien dire. Je sais qu'ils ont tous confessé Christ, ils ont été baptisés. Je sais qu'une chose, que ceux qui font la volonté de Dieu sont en accord avec Dieu et seront reçus. Ceux qui font la volonté de Dieu seront reçus. Les autres? Matthieu 7, 21. Ils m'ont dit, Seigneur, Seigneur, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Donc, clairement, ce vieux pasteur qui m'avait demandé d'aller, hein, et quand il arrêtait de reprendre la tâche de pasteur là-bas, je dis non, non, non. Je sais bien que c'est ingrat de rester dans ma région, que c'est parfois très humiliant, très décevant, mais le Seigneur m'a mis là pour le moment. Je ne peux pas te dire oui. Mais, je voyais qu'il souffrait. Hein. Parce que j'avais été combien de fois travailler là et tout, et j'aimais ces gens-là. Hein. J'avais des bons contacts. Mais c'est tout. Vous savez, ce n'est pas les sentiments qui comptent. C'est le Dieu. Dieu vous a mis une direction. Vous la gardez. Jusqu'au moment où il dit, tu as une autre direction maintenant. Alors, il faut avoir une véritable conviction. Hein. Ça ne vient pas du moi-je, du nombrilisme, de l'orgueil, etc. De la névrose. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une névrose. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, on voit après. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce qu'ils voient après. Dans tout l'évangile de Jean, le verset clé, viens et vois. Tu avances. Et puis après, tu verras. Viens et vois. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, nous voilà sur la piste des anciens. Donc, les anciens, c'est les plus vieux dorés qui ont déjà fait le trajet une fois. Ils partent. Ils partent. Mais attention, Abraham est mort. Déborah, David, ils sont morts. Ils sont plus là. Et moi, je dois avancer. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ils sont plus là. Mais je dois avancer dans la même direction. Mais purée! Je suis de même cas que les jeunes plus vieux dorés, mais ils sont partis avant moi, c'est pas moi. Ok ? Alors, qu'est-ce qui me reste ? La foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ben oui, Abel avait vu que Dieu avait mis une peau d'agneau sur ses parents, et qu'il avait mis la marque de Christ sur ses parents. Donc Christ avait été promis à toute l'humanité pour le pardon des péchés. C'était impossible de se sortir de cette puissance de péché, et toutes les dégradations du péché qui allaient s'en suivre pendant des milliers d'années, impossible sans Christ. Donc, qu'est-ce qu'a fait Abel ? Il a répété un sacrifice avec un agneau, parce qu'il a adopté la foi que Dieu avait enseigné en mettant la peau, la marque de Christ sur ses parents. Il a accepté le cap. Tandis que l'autre n'a pas accepté le cap que Dieu a donné, il a voulu son nombril, son moi. Il n'y a pas de cap éternel si le moi-je reste en cours. Celui qui me donne sa vie, qui veut conserver sa vie, la perdra, dit Jésus. Celui qui me la donne, la sauvera. C'est clair. Ou tu meurs spirituellement à ton moi, à ta vieille nature, ou tu ne viens pas dans la vie éternelle. C'est clair. C'est tout à fait ça. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc le sacrifice religieux, les démarches religieuses de Caïn et de toutes les religions, zéro poubelle. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc juste, ça veut dire pardonner ses péchés. Hein. Gratuitement, c'est un acte que Dieu dit, je te déclare juste, je ne regarde plus à ton péché, je te le pardonne. Pourquoi ? Parce que tu es sur le cap de Christ qui sera sacrifié pour toi, comme ton père et ta mère qui après avoir péché ont reçu ma pitié, ma miséricorde et ont reçu ma promesse. Ils ont dû pleurer beaucoup, Adam et Ève, beaucoup. Des larmes de sang, hein, en voyant déjà qu'un des fils tue l'autre. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et ils ne sont pas morts tout de suite. Hein. Ils ont vécu combien d'années ? Toutes les successions, là, et cette 8 générations qui ont suivi, ils ont vu des polygames, ils ont vu des gens faire la guerre, ils ont vu de tout dans leurs descendants. C'est presque jusqu'à Noé, presque jusqu'à l'année de Noé. Là, ils sont morts. Adam et Ève ont vu le désastre. Ils ont pleuré. Vous pouvez être sûr qu'ils ont pleuré plus qu'ils n'ont rigolé. L'affliction qui est venue de leur péché, ils l'ont mesurée. Hein. Vous savez que parfois il est bon, quand on a péché vraiment, de pleurer et d'être affligé. Parce que alors là, on voit le gouffre, les ténèbres du péché. Et si on regarde à l'amour de Jésus, si on regarde à son amour, à sa venue, à sa personne, qu'on découvre la grandeur, l'immensité, la gratuité de son amour, mais c'est fini. L'abîme est comblé. Un coup de bulldozer, tout est bouché. Mais dans lequel qu'on croit. Alors, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, celui qu'un. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Ben, bien sûr, c'est l'agneau sacrifié qui représente Christ. Comme au mont Morija, hein, pour Abraham et Isaac, c'est l'agneau sacrifié en prévision de Jésus. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la même théologie de salut, par l'agneau sacrifié. Ésaïe 53. Dieu approuvant ses offrandes, par elle, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Qu'est-ce qui parle, quoique mort? Dites-moi un peu, ici dans ce verset-là, 4. Qu'est-ce qui parle encore, quoique mort?
La foi, le bien.
Alors,
le sang.
Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. C'est clair quand il se révèle dans le buisson ardent à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants. Jésus l'a dit, je suis le Dieu des vivants. Toujours, le Hébreu 11, c'est le Dieu des vivants qui parle. C'est ça le cap. Nous ne sommes pas branchés sur la mort, nous sommes branchés sur le Dieu des vivants. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors Enoch, bien sûr, c'est en Genèse, chapitre 5, verset 24, c'est un des descendants d'Adam et Ève. Hein? Genèse 5, 24. Vous allez lire, il n'est pas mort, il a été enlevé. Hop. Alors, vous pouvez lire dans l'épître de Tite ou de Jude. Non, pas
Jude.
Jude, oui. Alors, pratiquement, ce qu'il y a, c'est que même Enoch a fait des prophéties sur le futur. Il faut le lire dans l'épître de Jude. Qui nous concerne, hein, ces prophéties-là. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu, pourquoi? Tellement il a été intègre, il a servi Dieu, il a été enlevé. Dieu a voulu montrer, un peu comme pour Élie, et surtout pour Christ, que la mort n'a pas autorité. Le péché n'a qu'une durée limitée. Les effets du péché n'ont qu'une durée médiocre, provisoire, qui sera vaincue. La mort, c'est un ennemi que Dieu vaincra. C'est pour ça que dans Jean, au chapitre 11, résurrection de Lazare, « Père, tu m'as toujours exaucé, je sais que tu m'exauceras. » Pour moi, je sais que je serai toujours exaucé. Il va à la mort, il est ressuscité. Hein? Donc, Jésus, c'est la pointe extrême de toutes les montagnes, le témoignage même de la foi, Jésus. Mais il y a déjà eu des témoins de la foi, et c'est ça, les plus vieux dorés. Et le premier pluvier doré, c'est Jésus. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Donc, à l'intérieur de son cœur, de son âme, il y a une révélation qu'il est en communion avec Dieu, qu'il est pardonné, qu'il est en paix, et qu'il peut faire confiance. Si vous avez reçu en Christ en vous, si vous êtes né de nouveau, c'est cela qui doit régner en vous, les amis. Il peut arriver que vous courez comme des lapins, après toutes sortes, je suis occupé, etc., le téléphone, le boulot et tout, et que vous négligiez de méditer ça, vous négligiez d'apprécier. Quand vous êtes à table, quelque chose est bon, vous restez un peu plus longtemps à table. Si madame a fait un bon dessert, vous restez jusqu'à le dessert. Hein? S'il y a des invités, oulala. Oh, c'était bon aujourd'hui. Mais si c'est Dieu qui, tous les jours, vous met à sa table, comme dans le psaume 23, je dresse une table devant eux, je mets de l'huile sur leur tête. C'est quoi ça? Apocalypse 3, 20, je mangerai avec eux, ils mangeront avec moi. C'est quoi ça? Si Jésus aujourd'hui, tous les jours, veut manger avec moi, je dois prendre le temps de manger avec Jésus. Je dois prendre le temps de converser avec lui et de prendre ce qu'il me donne. Moi, si je suis chrétien, né de nouveau, il peut arriver que je suis tellement un bâcleur de vie chrétienne, tellement un homme charnel, qui se laisserait entraîner par la vie charnelle, par la vie de ce monde, qui n'est plus en communion, en paix avec Dieu. Il a toujours le salut, il est toujours sous le sceau de Christ, mais il n'apprécie plus les grâces de Dieu. Il n'apprécie pas sa présence, ni ses bienfaits, ni même sa parole, des fois. Et on s'étonne après qu'on pète les plombs, on s'étonne qu'on tombe malade, on s'étonne qu'on a plein de misère, des fois. Mais où sont les bénédictions que Dieu m'avait promis? C'est moi-même qui ai craché dans la soupe. Alors, je vais vous dire franchement, combien de fois j'étais désolé de dire, Seigneur, tant de grâces que j'ai négligées. Moi, tant de grâces que j'ai mis de côté. Quand je suis seul, pardon Seigneur. Tant d'heures, des milliers d'heures, ratées, j'aurais pu t'adorer, t'aimer, te louer, être avec toi. Si je t'aime, si je t'aime, je t'avais vraiment aimé, je serais resté avec toi, en adoration, en prière, si je t'avais vraiment aimé. Mais non! Je t'aime avec mes mots, ma bouche, et puis... Mais toi, tu m'as toujours aimé. Tu es fidèle, tu ne m'as pas abandonné. Mais Seigneur, tu ne m'as pas renié. Pardon, je t'ai renié. Pratiquement, je t'ai renié. Même si je suis marqué de ton sceau, je t'ai renié. Seigneur, pardonne-moi, une vie chrétienne comme ça, c'est... Seigneur, même à mon âge, apprends-moi à être un enfant. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Que je reste pas comme ça et que je ne devienne pas encore plus crasseux en vieillissant. Plus je prends des jours et des jours. Seigneur, renouvelle-moi. Fortifie-moi. Éclaire-moi. Renouvelle mon intelligence. Il n'y a pas d'heure pour renouveler, même à 95 ans pour un chrétien. Car Dieu est tellement gracieux, tellement et tellement grand dans son amour, dans sa grâce. Alors, continuons. Le témoignage agréable en Dieu, dans Enoch, c'était ça. Allez, je vais te prendre, c'est pas rien pour toi, c'est pour montrer à tous les autres que la mort ne durera pas. Et Élie, c'est la même chose. Et puis Christ, là, mais toi Christ, ton Saint-Esprit va venir sur eux. Ton Esprit Saint qui est en toi va venir sur eux, sur tous ceux qui croient en toi, et ils ne vont pas être seuls. Je vais régner par l'Esprit Saint en eux, s'ils se laissent faire, s'ils sont des enfants, qui prennent la bonne technique de vol, évidemment. Parce que Dieu ne peut pas faire à notre place ce qu'on doit faire nous-mêmes. Alors, au verset 6, c'est pour ça que ce chapitre culmine dans ce verset. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu, Jésus, sur la croix, m'a pardonné mes péchés. Je l'ai accepté de tout fond de mon cœur. Je suis sauvé. Mais je n'ai pas cherché à lui être agréable les trois quarts du temps. Je n'ai pas cherché à l'agréer, je n'ai pas cherché à me présenter comme une offrande. Je suis sauvé, j'ai l'assurance du salut. Oh, je suis content, hein. Maintenant je vais faire ce qui me plaît. Hein. Oh, il me pardonnera toujours. Hein. Oh, je sais bien qu'il est bon. Oh, puis de toute façon, une petite pincée à une réunion, une petite pincée au culte, peut-être une pincée de 5 minutes dans la Bible. Mais c'est quoi ça? C'est agréable à Dieu. Alors, il est mis clairement, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu sait très bien que notre foi est petite. C'est pour ça que Jésus a dit dans la parole vol de Matthieu 13, « Si vous avez une foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne de s'en aller, de tomber à la mer, elle l'ira. » La petite foi qui nous reste parfois, alors qu'il nous a donné une grande foi, Dieu, le cœur de la foi ne périt point. La semence ne périt point. La semence est éternelle. C'est la première épître de Pierre. Une semence incorruptible qui nous a régénérés. La parole de Dieu qui est vivante et permanente. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, 2. C'est quoi? Elle reste là. Je découvre, Seigneur, qu'après tant d'années, j'ai été un chrétien médiocre et superficiel. J'ai bâclé ton amour. Je n'ai pas été amoureux de toi. Juste peut-être pas mis en priorité. Seigneur, je sais que tu es infiniment, infiniment amour pour moi et miséricordieux. Prends pitié de moi. Je me mets au fond du temple et comme la petite vieille, je mets ma petite foi dans tes mains. Je te donne ce que j'ai, rien d'autre. un grilleux, comme la petite femme. Je ne me présente pas devant toi, Seigneur, comme le pharisien, le présomptueux, devant, qui se compare aux autres. Nous n'offrons plus des pièces d'argent à Dieu. Nous offrons notre petite foi, notre graine précieuse venue d'en haut. L'image du pluvier doré, c'est clair. Il y a une semence dans le pluvier doré. Il y a une programmation éternelle de Dieu. Il sait où il va et comment il doit y aller. Et nous, par le Saint-Esprit, normalement oui. Par la parole de Dieu, normalement oui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, le pluvier doré va vers les îles parce qu'il sait, sans les avoir vus, que les îles existent. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Je vais vers le Seigneur sans ne jamais l'avoir vu. Je sais qu'il existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. J'arriverai au bon port. Je serai avec lui, dans sa gloire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, donc vous voyez, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Il fait ses choix. Hein. Et puis, il commence à avoir de l'opposition, de l'incompréhension. Et il ne cherche plus à plaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il va se faire prendre pour eux. Hein. Par elle qu'il condamna le monde. C'est tout. Je me coupe de tout ça. Je ne veux plus ça. Les mensonges, les tricheries, la corruption, le sexe, la pourriture, l'égoïsme, la vanité, les fantasmes, je ne veux plus tout ça. Je veux quelque chose de propre dans ma vie. Seigneur, prends toute la place. Je te donne toute ma vie. Et c'est ça, Noé. Il était un homme intègre. C'est mis en hébreu, dans la Genèse, hein, et c'est mis l'intégrité. C'est réellement le souci d'accomplir la droiture et la loyauté en Dieu. Donc le verset que nous avons appris de Michée 6,8, c'est ça. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Est-ce que chacun de nous construit une arche pour sa famille, pour les siens? Est-ce que chacun de nous prend le soin d'entraîner les autres, parfois qui sont des IA, qui ne comprennent rien, d'entraîner les autres vers, pour échapper à la condamnation de ce monde, pour aller comme le pluvier doré? Je suis certain que dans tous les pluviers dorés, il y en a qui cantent. Ils voient les autres démarrer, ils se demandent où ils vont. Et ils les suivent. Ils les suivent. Quand j'ai vu ces grandes grues-là passer au-dessus de la tête de Marie-Hélène à 2-3 mètres, les pattes là. Et puis, encore un peu, il aurait gratté les cheveux. Eh bien, je dis, mais laquelle qui commande là-dedans? Laquelle? Laquelle qui sait où elle va? Je regardais ça, puis tout d'un coup, je dis, c'est quand même énorme ces machins-là. Et puis tout d'un coup, quand c'est plus haut, ça fait élever, ça y est. Et puis ils se remplacent devant. Parce que celui qui tire, il tire, hein, devant. Ils se remplacent tous. Et donc, c'est une solidarité. C'est une co-responsabilité. Chacun allait devant pour tirer. Parce que les autres qui sont enlevés épargnent jusqu'à 30-40% de l'effort en volant. Alors, c'est la même chose. Nous construisons une arche en ayant la foi pour sauver notre famille. Nous ne sommes pas tous égaux dans la foi. Nous ne sommes pas tous brillants à des niveaux différents. Il faut entraîner le temps que les autres comprennent. C'est par elle qu'il condamne le monde, qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ayant cette foi-là, Dieu, lui, rend justice. C'est-à-dire, je te pardonne ta nature pécheresse. Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. Tu connaîtras la grâce de Christ à la croix. Pour le moment, tu vas aller avec Abraham et tous les autres, tu vas aller dans le séjour des morts, paisible. Et puis quand Christ sera ressuscité, il descendra vous chercher pour vous conduire au ciel. Il vous conférera le Saint-Esprit et vous amènera. Deuxième épître de Pierre. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait, pluvier doré. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, l'île d'Hawaï. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre? Après, on n'y reste pas, on y retourne en plus. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est le règne de Christ. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Une postérité. Abraham, Isaac, et tous les Juifs, et les... Hein? Christ. Galates, chapitre 2. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Elle a eu le temps de méditer. Elle s'était moquée de l'ange éternel. Elle a eu le temps de méditer. Et Dieu, dans le désert, on se fait travailler, hein? Parce qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de tablette et de téléphone portable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le jeûne à prière. Il faut se couper de tout à certains moments. Pas possible. Nous sommes manipulés pour ne pas être à Dieu. Et on accepte ? Non. Alors, il faut condamner le monde qui veut nous manger, manger notre temps pour Dieu. Alors, Abraham et Sarah, ben ça fait un bon attelage. Un bon attelage, même si elle l'a douté un certain temps. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Donc c'était un vieux monsieur, dans lequel on ne pouvait plus espérer grand-chose, et voilà que naissent de lui tous les Juifs, et Jésus après, et les chrétiens après, et de l'autre côté, tous les Arabes. Les Arabes, Ismaël, et puis vous regardez certains textes, ils vont vers Jésus, Jérusalem aussi. Eh bien, dis donc, la promesse, elle était sérieuse, hein? Grandiose, grandiose. Et par la foi, dans la solitude de la prière, dans la révélation que Dieu lui fait, il le savait. Et à cause de ça, il a tenu le coup. Est-ce que, chers amis, nous, tous les jours, nous prenons le temps de savoir où nous allons? Pourquoi nous nous levons? Pourquoi nous pensons? Pourquoi nous mangeons? Et si demain je meurs dans 5 minutes, où je vais? Comme Abraham, comme Noé, comme Isaac, comme Abel, comme le pluvier doré. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Nous aussi, les amis. Des fois, on est plus vite enterré qu'on le pense, vous savez. Moi, je suis sur la route souvent, hein, pour des visites et tout. Ça roule comme des dingues. Par tous les temps, n'importe comment. S'il faisait bon, qu'il roule comme il roule, ça va. Mais normalement, quand il fait horrible comme il fait, hein, dégoûtant comme il fait, des fois, il faut ralentir, il faut mettre la cadence un peu de côté. Mais non, ils n'en sont plus là. Ils achètent des bagnoles plus grosses et plus costaudes et ils sont invulnérables à leurs yeux. Pourtant, j'ai vu des grosses bagnoles retourner, les quatre fers en l'air avec les gens tous morts. Hein. J'ai eu le temps d'en voir sur toutes les années que je conduis. Quand je prie, je suis sur la route, je prie, Seigneur, que ce ne soit pas encore mon jour aujourd'hui, j'ai encore du travail sur la terre pour toi. Je sais que demain, ou tout à l'heure, il y en a une, il quitte la route, qui ne suit plus les côtes de la route, qui a pris un schnaps ou de la drogue, ou qui a envie de se suicider, et il est en face, c'est fini. Je ne rentre plus, c'est fini. Mais Seigneur, regarde, tout le travail est encore à faire. Seigneur, si tu veux bien, quand je pars, je lui dis, si tu veux bien. Parce que je ne suis pas certain de rentrer. C'est que Dieu qui le sait. Tous les jours, sur la route, c'est comme ça. Je le vois comme ça maintenant. Quand vous mettez dans le lit, Seigneur, si tu le veux, je me réveillerai, si tu le veux bien. La foi est notre moteur, comme la graisse chez le pluvier doré. Notre graisse, c'est la foi. Lévitique 3,16, quand on tuait les agneaux, les bœufs et tout ça, on brûlait les entrailles, la graisse. La graisse appartient à Dieu, Lévitique 3,16. C'est pas mal. J'ai plus bien, la graisse appartient à Dieu. Pas mal, je trouve. J'ai pensé à ça quand j'écoutais Vincent. Alors, verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ben oui, les pluviers dorés, ils ont volé 30 heures, Oh, mais zut, hein. J'allais dire un mot vilain. Zut, hein, on retourne. Il retourne en Alaska. Il retourne en Alaska et puis il y a l'hiver. Moins 30, moins 40, c'est fini. Terminé. Les parents sont tout seuls sur les îles. Mais les parents ont déjà pondu une fois. Ils doivent aller pour aller pondre là-bas et que les autres viennent revenir. Ils ont une mission. Ils ne retournent pas. Pourquoi ils ne retournent pas? Pourquoi dans le film là avec le bateau, je ne sais plus, Mayflower, pourquoi ces chrétiens-là qui sont partis en Amérique dans des conditions insoutenables dans ce bateau, pourquoi ils ne sont pas retournés? C'était tellement dur. Dans l'église, pourquoi vous n'abandonnez pas, pourquoi vous ne retournez pas tout ce que vous avez fait avant? Vous avez déjà posé la question? Vous avez posé la question?
Bien sûr.
Si naturellement vous n'avez encore rien quitté, vous ne savez pas que vous pouvez retourner. Mais pour celui qui a quitté et qui a rompu, il sait qu'il est parti, il se dit, mais je pourrais retourner. Vous ne savez pas que c'était ça la vie chrétienne. Un vol de 88 heures, sans arrêter, et je perds toute ma graisse. Oui, parce que la graisse n'est pas agréable à Dieu. Mais c'est, je dis ça en riant. Mais quand on a commencé sa vie chrétienne, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est plus que 88 heures de vol. Hein. Sauf pour ceux qui sont martyrs tout de suite. Au bout de quelques heures, dans certains pays, c'est comme ça. Le vol a été court, mais ils sont au ciel. Ils sont dans la patrie céleste. Alors, verset 16, « Maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Alors, je voudrais vous dire ceci, moi je vais en arrêter là aujourd'hui, il y a un autre verset dans Hébreux, où Jésus dit, c'est mis que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères auprès de Dieu. Parce que, franchement, on était faux pas à la hauteur, hein. On est frères de Jésus, par grâce. Mais combien de fois on est à la hauteur, vous croyez? Allez, sur 10 000 jours qu'on vit, ou 20 000 jours, non. Si on a eu 100, on peut déjà être content. Alors, Jésus n'a pas honte de nous présenter devant son Père, nous appeler frères, nous présenter à Dieu, et Dieu nous prend. Il y a deux fois l'expression, mais comme je n'ai pas préparé, j'ai écouté, j'ai changé toute ma prédication, j'ai entendu le plus vieux doré, et Vincent, je me dis, c'est en Hébreu 11. Mais maintenant, regardez, il y a deux fois, Dieu n'a pas honte. Et ici, c'est au verset 17. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il a préparé une cité. Alors, quand les plus vieux dorés, les jeunes, les teenagers, arrivent en formation serrée sur l'île d'Hawaï, les parents sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient ensemble, ils sont tous contents, ils sont réconciliés, ils sont ensemble. Mettez-vous à la place de Dieu, de Jésus-Christ, d'Abraham, d'Isaac, de tout le monde, dans la cité céleste, et qui disent, enfin vous êtes là. Venez les bien-aimés. Dieu n'a pas honte de les recevoir. Pourtant, nous n'avons pas une vie toujours des plus fidèles. Dieu n'a pas honte. Mais si nous avons tenu le cap, et le vol, nous allons revoir tout cela. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la vie. Et Dieu nous attend. Il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Méditez ce texte-là. Et rappelez-vous ce que Vincent a enseigné. Je pense que l'Esprit Saint avait préparé tout ça d'avance.
Chapitre 2, verset 11. Il n'a pas honte de nous appeler.
Lis-le à voix haute.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore je me confierai en toi et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. »
Hébreux,
chapitre 2, verset 11.
12.
11 à 13.
11. Chapitre
2. Verset 11 à 13.
11 à 13. Donc, vous avez vu, il y a une clé dans l'épître aux Hébreux. C'est le vol du pluvier doré. C'est le vol, c'est, il n'y a pas de honte pour Dieu à recevoir des pécheurs sauvés par son Fils. Sauvés par son Fils ? Direct. Égalité de grâce, égalité de gloire. Quoi qu'on ait beaucoup ou peu obéi, parce que Dieu ne nous regarde pas comme les humains. Il ne regarde pas à notre passé. Il a tout effacé dans son livre. Nous, entre chrétiens, parfois on dit « Celui-là, il avait fait ça dans le passé. » Même qu'on ne le dit pas, des fois on le pense. C'est faux, ça vient du diable. Dieu n'a pas de pensée, de soupçon sur les autres. 1 Corinthiens 13, « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est Dieu. Il n'y en a pas autre part. Il n'y a pas d'amour autre part qu'en Dieu. Dans le reste, c'est la dévastation. L'amour est en Dieu. Celui qui veut parler d'amour sur la terre, il faut qu'il se branche sur Dieu. Qu'il se donne à Dieu. Autrement, c'est une comédie. C'est une magouille, l'amour. Alors, dites-vous bien, si Jésus n'a pas honte de nous présenter à Dieu, regardez bien aussi l'autre verset de chapitre 11. Dieu n'a pas honte d'être notre Dieu. Ça, c'est un papa. Ça, c'est un papa, un vrai. Et pensez à la parabole de Jésus avec l'enfant prodigue qui revient. Ça, c'est le vrai papa. Il reprend l'enfant perdu. Amen. Qui veut prier ?